rendez-vous de midi qui reprennent. C'est lundi aujourd'hui, Emmanuel, 12h35. Et on retrouve bien vos côtés, Étienne Chouinard, c'est votre invité.
Oui, aujourd'hui, Étienne Chouinard est venu avec deux livres en cette rentrée, écrits et illustrés par l'auteur. La ligne Fromentine-Chaland sur les traces du petit train et une enfance entre Landes et Marais. Nous allons réveiller quelques mémoires et faire découvrir aussi aux plus jeunes tout un passé. Bonjour Étienne Chouinard.
Bonjour.
Alors, je vous propose de faire plus ample connaissance, découvrir votre parcours qui va nous permettre de mieux appréhender aussi ces deux ouvrages. Alors aujourd'hui, vous êtes bien installé en Vendée, en Nord-Ouest Vendée, c'est la patrie de votre mère. Où avez-vous grandi avec également un papa breton?
Alors j'ai grandi sur Rennes, le pays rennais. Et j'ai fait mes études après à Paris, bien sûr, de spécialisation en architecture puis en urbanisme, avant de revenir et travailler un peu à Paris, avant de revenir sur la région rennaise où j'ai installé mon cabinet.
À l'origine, c'est votre base, donc architecte des constructions dans tout l'Ouest.
Dans tout l'Ouest, dans tous les départements de l'Ouest.
Quelle était votre spécialité?
Alors, un petit peu de tout, des bâtiments publics essentiellement, avec une clientèle gagnée sur concours public, bien évidemment, et après de fil en aiguille, le bouche à oreille et puis la réputation qui se fait. Donc après toujours quand même en pratiquant des concours, ne serait-ce que pour avoir accès à des types de marchés comme les équipements publics, les édifices publics, les hôtels de ville, des choses comme ça, ou sous-préfecture. Oui,
vous
autant d'éléments
choses,
qu'on ne peut avoir que par concours.
On m'avait dit la réhabilitation de la Banque de France à Rennes.
Voilà, l'immeuble historique de Ouest-France à Rennes, rue du Pré-Beauté, que les Rennais connaissent bien, l'espace Ouest-France, l'espace de France 3 Ouest également, qui est pas loin, avenue Janvier. Enfin, vous voyez, c'était très didactique et très, très éclectique.
Quelques beaux édifices. La Vendée, ça fait partie aussi de la patrie de votre maman, votre grand-père. Vous venez en vacances, très jeune.
Voilà, parce que mes parents ont décidé de construire une maison du temps où Fromentine était en pleine expansion, c'est-à-dire juste après la guerre. Et ils ont construit une maison dans tout près de la forêt domaniale à Fromentine, où il fait bon vivre.
Où vous vivez aujourd'hui d'ailleurs.
Et où je vais de plus en plus pour les promenades, l'accès aux dunes, à la forêt, à la mer, aux plages, etc.
Quoi. Et ce qui est important pour vous, la nature, on va le voir ensemble. Alors vous êtes connu, Étienne Chouinard, ici reconnu, impliqué par exemple dans la Chénov, la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée. Vous en avez été le président.
Jusqu'au printemps.
Toujours partie de l'association.
Ah bien sûr, oui.
Actif aussi dans une autre association, et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. La Chénov, c'est le côté histoire, écriture, patrimoine. L'autre association,
le dessin. Avec les peintres entre mer et marais.
Parce que voilà, vous aimez, vous êtes passionné d'histoire, patrimoine, d'écriture.
Voilà, et je mets beaucoup certains prennent des photos, moi c'est plutôt des croquis. Je mélange photos et croquis, et ça me permet d'avoir des notes prises graphiquement, si vous voulez. Et ça me permet d'y revenir des dizaines d'années après, comme je l'ai fait dans le livre Les traces du petit train, où j'ai peint j'ai repris des peintures de l'époque, quand j'étais gamin, par exemple. Et parfois des sujets qui n'existent plus, qui ont été démolis, qui ont été détruits. Vous voyez, ça devient entre guillemets historique.
Voilà, ça, c'est un témoignage.
C'est un témoignage.
Forcément, iconographique. Alors, autre passion, effectivement, l'écriture. C'est important pour vous de combiner, alors effectivement, de manière très importante dans le livre sur le petit train, l'écrit et le dessin.
Voilà, faut mélanger les deux. Je pense que c'est plus qu'une illustration, si vous voulez, les croquis. Ça apporte, c'est une façon d'écrire, et ça vous évite c'est ce qu'on dit parfois, un bon dessin vaut parfois beaucoup de pages d'écriture, et vice-versa, l'inverse est également vrai, et quand on combine les deux, on arrive à dire l'essentiel des choses.
Je confirme, un très très beau dessin qui nous font revivre pour beaucoup une époque qu'on n'a pas connue. On va en parler justement. Vous venez aujourd'hui avec ces deux livres. Alors l'un, une enfance entre Landes et Marais. On pourrait imaginer, par le titre déjà, un récit linéaire, autobiographique. C'est pas du tout ça.
Non, c'est un petit peu dans la lignée de mon auteur préféré de l'époque quand j'étais enfant, c'était Henri Bosco. Alors comme donc L'enfant et la rivière, c'était un peu la même chose. La rivière, là, c'était la Vilaine, donc au pays de Rennes, où je m'en allais rêver, de rêver dans des tas de d'îlots au cœur même de au cœur de la rivière, hein, parce qu'il y en avait des petits îlots associés aux écluses, si vous voulez. Il y avait ça comme point commun avec l'enfant et la rivière. Mais bon, l'enfant et la rivière se passe en Provence, puisque là nous sommes dans le pays, dans les pays des Landes, entre des Landes du pays rennais, donc ça n'a strictement rien à voir comme type de paysage. Mais l'ambiance était la même, c'était la rêverie et une belle nature que j'aimais beaucoup observé et que j'espère avoir retranscrit pour le mieux, pour l'essentiel.
Oui, vous nous racontez deux régions qui sont chères à votre cœur, effectivement, le Pays Rennais, le Nord-Ouest Vendée aussi. Ces sensations, parfois visuelles, parfois des odeurs qui ressortent, les souvenirs sont intacts en tout cas.
Ah bah oui, alors surtout que la vallée de la Vilaine, c'était encaissé, très encaissé, et bordé de carrières. Alors on imagine forcément les échos qui se prêtaient d'une rive à l'autre, et je ne l'ai pas connu ce temps-là, lorsque les rivières étaient en exploitation, il y avait le bruit des explosifs, la fameuse chédite dont je parle d'ailleurs, dont qui fait l'histoire d'un braconnier qui était que j'ai connu localement. Il y avait beaucoup de bruit, de répercussion des bruits, et maintenant on le vit encore, mais là lorsqu'il y a des rêves partis, c'est toute chose.
Ah, c'est autre chose.
Mais ça se promène sur des kilomètres et des kilomètres le long de la Vilaine. Et
finalement les jeunes aiment toujours cette...
Ben voilà, ça existe toujours.
Et effectivement, vous nous racontez des histoires, des récits, presque des petites
anecdotes.
Exactement, hein. Des témoignages.
Voilà.
Pas forcément vécus, effectivement.
Beaucoup sont vécus.
Beaucoup
sauf
sont
au
vécus.
Départ. Au départ, où je parle d'une période antérieure, hein, donc quand je parle de la carrière, effectivement, la carrière était en exploitation. Bon, moi, dans les années 60, c'était fini. Hein, c'était le parpaing a remplacé le moellon de schiste. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'accidents, et je commence l'ouvrage en parlant de ça. Beaucoup d'accidents qui ont eu lieu dans les carrières. Du fait des explosifs dont je parlais tout à l'heure.
On est un peu dans les mines du Nord, dans les carrières de l'Ouest.
Des carrières ouvertes.
Ouais. Et en tout cas, c'est un environnement voilà, que vous nous faites revivre. On vous retrouve aussi amoureux de ces terres, de la biodiversité, c'est important. Hein. Inquiet de leur mise en péril.
Je vois personnellement diminuer le nombre d'espèces d'oiseaux que je pouvais voir quand j'étais petit. Ou quand j'étais enfant. Et le nombre diminue considérablement. Par contre, vous avez des espèces qui se portent très bien, les généralistes, hein, et qui même se développent en nombre. Mais ce n'est pas forcément un bien lorsqu'on analyse sur le fond le pourquoi de ces choses-là.
C'est un autre domaine qui vous passionne, que je n'ai pas évoqué, hein, c'est l'ornithologie.
L'ornithologie, et puis avec ses répercussions au niveau décoratif, au niveau figuratif, dans la peinture comme dans la sculpture, ou dans les ouvrages d'art, dans l'art sacré d'une manière générale.
C'est quelque chose voilà, que vous connaissez bien. Voilà ces territoires. Le livre est sorti il y a quelques mois maintenant, ce livre.
Le livre-là, oui. Il est sorti au mois d'avril.
Vous avez quelques retours?
Alors, il est sorti, pour être précis, au printemps de Montaigu. Hein, donc à la fois sur Rennes et à la fois sur le Nord-Ouest Vendée. Bon, les retours sont favorables, hein, pas très très nombreux, beaucoup moins nombreux que
le second livre.
Bah oui, l'autre livre qui effectivement est plus proche des gens, s'adresse plus directement à leur propre environnement immédiat et à la vie de leur famille ou ce qu'ils ont connu.
Entre Chalands et Fromentine. Et ce fameux petit train, justement, on va en parler. Alors le premier, c'est à compte d'auteur, hein, que vous l'avez édité. On va en reparler aussi. Et le premier, c'est aux éditions du Petit Pavé. Je dis des bêtises.
Oui.
Et le second, c'est à compte d'auteur. Je le précise. Dans les deux, on retrouve des illustrations alors encore beaucoup plus présentes hein, dans la ligne Fromentine-Chaland, sur les traces du petit train. On va en parler justement dans quelques minutes, Arnaud Guitteau.
Oui, juste après Grand Corps Malade et Kim Burrows, nos plus belles années sur Nov. Regarde devant, va où va le vent.
route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Confiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées?
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Grand Corps Malade et Kimber Rose, 9FM, 12h49. Étienne Chouinard est votre invité aujourd'hui, Emmanuel Maisorette.
Voilà, auteur de très jolis livres, dont un dont on va parler maintenant, c'est la ligne Fromentine-Chaland, sur les traces du petit train, très joli par vos illustrations. Vous nous racontez, vous nous apprenez beaucoup de choses sur ce qu'a représenté pour ses contemporains le petit train entre Chaland et Fromentine pendant 53 ans seulement. C'était pas grand-chose, hein, finalement. Et pourtant, il a beaucoup marqué ses contemporains. Et vous illustrez le récit. Alors de scénettes pleines de vie, de paysages. C'est un peu déjà la suite d'un précédent livre qui est toujours à acheter, à trouver, qui est passionnant sur Fromentine, Naissance d'une station, nouvelle édition, avec vraiment beaucoup de documentation pour ce livre, des photographies, des toiles de différents peintres, et puis des explications aussi toujours courantes. Là, dans ce nouveau petit livre, ce sont essentiellement, quasi essentiellement, à vos illustrations, voilà, qu'on peut retrouver.
En m'appuyant sur des documents bien évidemment d'époque, hein, des cartes postales anciennes, enfin des documents historiques. Hein. Alors en partant de l'embarcadère, puisque il ne faut pas oublier que c'était le départ des îles de Noirmoutier et de l'Île-Dieu, donc qui est à partir de 1935 avec le premier vapeur, le premier bâtiment qui remplaçait le navire, hein, oui, qui remplaçait le premier vapeur, c'était l'Insula Hoya.
Déjà
l'Insula Hoya tout court. Maintenant c'est l'Insula Hoya 2 qui termine sa vie, et bientôt il y aura
le 3, mais je crois qu'il est arrivé le 3 aussi, hein.
Ça va être une question de moi, hein.
Oui, excusez-moi.
Donc
oui.
On démarre l'histoire donc de l'embarcadère pour aller jusqu'à Chaland. Alors faut faut savoir que c'était une ligne qui ne demandait pas de gros travaux. Il n'y a eu que 200 ouvriers à travailler sur la ligne, ce qui n'est pas énorme quand on compare aux gros travaux de l'époque, hein, du 19e, par exemple la construction des digues ou des choses comme ça, où ça allait jusqu'à 800, voire 1000 ouvriers en période de pointe.
Oui, vous nous racontez comment le réseau a été construit, des rails, etc. Et ça n'a pas l'air effectivement si gigantesque que ça.
Non, parce que c'était construit sur les bas-côtés, sur l'accotement des routes. Or, là, il n'y a pas de grande vallée à franchir, comme par exemple entre plus loin du côté de des Herbiers, hein, où vous avez un petit train, d'ailleurs où on mange très bien, hein, où le train stationne au-dessus d'un viaduc. Je veux dire par là, c'est que sur certaines lignes, il y a plusieurs viaducs, tandis que là, il n'y avait absolument aucun ouvrage de génie civil à construire, dans la mesure où le terrain était parfaitement plat, quoi.
Alors aujourd'hui, il est assez loin, ce petit train, mais son entrée en service en 1896.
C'est ça.
Avec ses trois locomotives, vous nous racontez, elles ont été commandées à Paris. Elles portent le nom de Chaland, de Beauvoir et de Fromentine. Il y aura 4 trains quotidiens dans les deux sens. Et dès la première année, c'est un succès fou. On va comprendre aussi pourquoi, évidemment.
Ah ben ça désenclavait complètement la région et ça s'adressait à tout le monde, aussi bien des produits marins que des produits agricoles, que d'élevage, etc. Tous les corps de métier de toutes les branches d'activité étaient intéressés. Aussi bien les engrais que les matériaux de construction, vous voyez, tout le monde s'y retrouvait.
Donc c'est une première visée commerciale.
Voilà, c'était économique. Hein. Mais pas seulement pour les voyageurs, c'était une libération et ça permettait un gain de temps qui n'était pas considérable, mais enfin, qui permettait encore de prendre le temps de vivre. Car c'est toute une époque, hein. Faut pas croire que ça s'arrêtait au train, hein. Il y avait tous les à côté, hein. On allait à l'époque, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'artisans, énormément d'artisans, et chacun s'entraidait par le biais du petit train. C'est-à-dire que le petit train déposait pour les uns des matériaux, pour les autres des monuments funéraires, vous voyez. On se prêtait les wagons, avec des autorisations, bien évidemment. On le tractait avec avec un roulier, je cite l'exemple du roulier Monsieur Garnier, qui m'a raconté donc ces propos-là. Par exemple, pour aller au cimetière de la Barre de Mont, la ligne qui allait à Saint-Jean-de-Mont n'étant pas encore construite, on empruntait le wagon du petit train, on le commandait et on le faisait tracter par le cheval du roulier, si vous voulez.
Donc il y a plein de fonctions, en fait, multiples fonctions.
Voilà, triple fonction.
Usage. On vous rappelait son tracé, il part donc effectivement de Fromentine jusqu'à Chaland, il va passer par Beauvoir-sur-Mer, par Saint-Gervais, Pont-à-Berre aussi, il y a plusieurs arrêts, c'est vraiment le petit train du Marais breton vendéen.
Tout à fait, il s'arrête un petit peu partout, plusieurs fois d'ailleurs, ne serait-ce qu'à Chaland, il s'arrête déjà à partir des quatre moulins, hein, ce qui est l'équivalent de Salertaine. Il ne va pas à Salertaine pour des considérations de topographiques, mais il passe à 2 km de son.
Voilà. Pont-à-Berre.
Et puis ensuite Pont-à-Berre. Et puis après, l'arrêt de croix de la mission rue Carnot, après les petites halles, et puis la gare Chaland-État, qui était le terminus, si vous voulez.
Donc plusieurs arrêts à Chaland. Plusieurs aussi à Saint-Gervais, d'ailleurs, il n'y a pas un seul arrêt.
Hein. Non, à Saint-Gervais, il s'arrêtait également devant l'église, hein, d'où le croquis que j'ai fait, et la gare se trouve en limite d'agglomération côté Chaland.
Et vous avez donc reçu pas mal de témoignages, alors il y en a hélas de moins en moins,
voilà.
Parce que vous n'avez pas connu ce petit train.
Non, personnellement, je
ne
l'ai pas connu. Ben oui.
Mais c'est très tôt, quoi. Pourquoi cet arrêt si tôt?
Ben, la concurrence de la voiture et du camion,
tout
surtout.
Simplement.
Principalement. Et la concurrence du cabotage. Le cabotage a fait concurrence au camion et le camion a fait concurrence au train. Et très vite, ça s'est arrêté.
Mais vous avez en tout cas rencontré pas mal de témoins qui en gardent un souvenir ému.
Ah oui, toujours. Hein. Et notamment mon ami Jean-Paul Boursereau, qui est décédé il y a quelques années maintenant, hein, qui a écrit, je pense, un beau texte sur au regretté petit train.
Oui, vous terminez le livre, hein, sur ce texte.
Voilà.
Et il dit, Jean-Paul Boursereau, quand le train s'est arrêté, j'ai vu des gens pleurer.
Tout à fait. Oui, oui. Mais les gens en parlent toujours avec émotion. Vous voyez, c'est encore, ça leur rappelle une époque où il faisait bon vivre, quoi. Et les rapports humains n'avaient plus rien à voir. Par exemple, si je vous disais que la Côte de la Maladrie, à la sortie de Beauvoir, lorsque le train à la Libération, enfin, avant la Libération, était actionné au bois et non pas au charbon, et il fallait aider la motrice par mauvais temps ou par temps de vent, tout le monde descendait. Et poussait le wagon. D'accord. Vous imaginez ça maintenant? Non. Je ne pense pas. Ça serait plutôt difficile. Donc, vous voyez, c'était un climat d'entraîne, mais que retrouvait également, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des bourgs.
Et donc, on remonte vraiment quasiment 100 ans en arrière, voire plus. Hein. Et on imagine effectivement que ça a été aussi important pour les gens. Par exemple, pour aller à la mer, ils empruntaient ce petit train pour aller à
Fromentine. C'était tout à fait ça. Et surtout, justement, la distance le permettait, hein, entre Chaland et... Et Fromentine, ça vous permettait d'aller même parfois au-delà du bord de mer, de la plage, prendre des bains de mer à l'île de Noirmoutier et de revenir le soir pour à son domicile à Chaland. Les horaires étaient faits en conséquence, hein, puisque vous aviez Léon Souillard qui était le chef de la compagnie qui vivait à Chaland mais qui était très proche de la commune de Fromentine. Enfin, c'est pas une commune, hein. C'est un quartier de la Bardemont. Alors, faut pas oublier qu'il y avait pas que les bains de mer, il y avait également, et j'en parle comme illustration, lorsqu'il y avait Pinder par exemple, tous les enfants voulaient y aller, hein.
Oui.
Donc c'était l'occasion d'aller au cirque, et plus généralement lorsqu'il y avait des séances de cinéma. Hein, à l'époque, donc, c'était dans le centre-ville, les Halles, donc, que j'ai d'ailleurs dessiné dans
Ah, on revient
voilà,
avec vous.
Hein, voilà, à l'Arpette, hein, ça s'appelait l'Arpette à l'époque. Les gens prenaient le petit train et il y avait des trains spéciaux pour suivre des soirées cinéma.
Oui,
et ils revenaient la nuit, d'où l'idée de train de nuit. Ils revenaient la tombée de la nuit, donc à Fromentine, et en ayant passé une bonne soirée. Alors tout ça, c'est parce que il y avait un dénommé Monsieur Groard qui faisait la même chose sur le café de l'Estacade à Fromentine.
On découvre tout ça, on découvre aussi les éléphants de Pinder. Hein,
bah, les éléphants de Pinder qui font des petits dégâts. Mais tout ça, c'était raconté dans le journal Le Phare de la Loire. Hein.
Vous avez des belles sources, et beaucoup d'anecdotes, de souvenirs, de témoignages, effectivement. Vous nous parlez aussi de Raymond Gauvry, évidemment très très connu ici à Saint-Gervais. Et puis Jean-Paul Boursereau aussi. Je laisse évidemment aux auditeurs le plaisir de devenir lecteurs, hein, de vos ouvrages. Alors, on retrouve, je rappelle, le premier aux éditions du Petit Pavé, le second édité par vos soins. On peut aussi bien rechercher, hein, la maraîchine et les peintres, prix Claude Mercier. Merci à vous. Ces oiseaux qui font parler les murs. Alors ça m'a amusé aussi, vous qui faites partie de parler les lieux aujourd'hui. Mmh. Mais ça a précédé, hein, il me semble.
Oui, tout à fait.
Puisque vous êtes passionné effectivement et d'architecture et d'ornithologie. Mais écoutez, merci beaucoup, Étienne Chouinard. On va devoir arrêter les 13h, mais c'est passionnant. Et on conseille vivement ces lectures.